Alors, on va reprendre. Comme on vous l'a expliqué en ouverture, Diane et moi, pour cette journée d'études, on a vraiment souhaité que soient proposées deux séquences avec un format différent, des séquences buissonnières en quelque sorte, pour filer la métaphore végétale, qui vont permettre d'aborder à la fois la programmation, mais aussi, donc en fin de journée, la valorisation du patrimoine, la restauration. Et d'aller du côté du cinéma expérimental pour cette première séquence buissonnière et du côté du cinéma muet français pour celle de la fin de la journée. Donc dans cette optique, la carte blanche de cette fin de matinée a été attribuée à Alice Leroy et à Charlie Levinson, que j'ai le plaisir de vous présenter tout de suite. Alice Leroy est maîtresse de conférence en études cinématographiques à l'université Gustave Eiffel et membre du laboratoire LISA. Et elle est aussi membre junior de l'IUF, de l'Institut universitaire de France. Elle déploie des recherches qui se situent au croisement d'une approche éco-critique du cinéma et d'une épistémologie des savoirs visuels. Et Alice dirige avec Antonio Somini la collection Images Medium aux éditions Mimesis, et elle a également une activité de critique au Cahier du cinéma. Alors j'ajoute, ce qui nous intéresse tout particulièrement pour cette séquence, qu'Alice développe en parallèle une activité de programmatrice, notamment avec le cinéma du réel, comme je l'ai cité tout à l'heure. Cette activité de programmation me permet de tisser un lien avec Charlie Evingson, qui est directeur artistique du Festival des cinémas différents et expérimentants de Paris et membre du comité de sélection de l'association LICON. Charlie est docteur en études cinématographiques et il est membre cofondateur de Germaine. Alors peut-être est-il nécessaire que je précise ce qu'est Germaine. Germaine est le groupe de recherche doctorale qui réunit les doctorants de l'Université de Paris travaillant sur le cinéma et sur les médias. Ses recherches portent sur les approches néo-matérialistes et éco-critiques du cinéma, entre autres dans les pratiques expérimentales contemporaines. Et il a co-dirigé dernièrement, en 2023, avec Gaspard Delon et Aymeric Panté, l'ouvrage « Éco-critique, cinéma, audiovisuel, art » qui a été publié aux éditions Hermann. Tous deux ont décidé de focaliser leur carte blanche sur une programmation que Charlie Evingson a co-réalisée pour le Festival des cinémas différents et expérimentaux à l'automne 2024. Programmation titrée « Écologie égale jardinage plus lutte des classes ». Ainsi, ils vont discuter, entre autres, l'évolution de la place de l'esthétique subversive du jardinage dans le cinéma expérimental contemporain. Et ils vont, je crois, se demander dans quelle mesure le jardin est toujours un motif essentiel du cinéma expérimental. Allez, Charlie, c'est à vous.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je vais commencer... Je ne sais plus comment. Je vais commencer avec une petite présentation théorique et puis ensuite je céderai la parole à Charlie qui présentera une série d'extraits de films. Alors, en fait, puisque la proposition théorique de Urban Nature 2, c'était de travailler sur les espaces entre ville et campagne, hein, en quelque sorte, on s'est déplacé de la ville. Dans un mouvement qui va vers la campagne. Le premier espace, moi, qui m'était venu à l'esprit, c'était évidemment le jardin, qui a été l'objet d'un premier colloque, mais je vais quand même partir de cet espace-là, parce que il me semblait que cette portion réelle ou imaginaire, d'ailleurs, hein, d'une nature façonnée selon un dessin idéal et séparée du reste du monde, puisque d'ailleurs étymologiquement, le jardin, c'est un espace clos, hein, c'est un espace clôturé. Il me semblait que c'était un espace qui était assez propice à l'allégorie, parce que c'est un décor, c'est un lieu de représentation, c'est un lieu de mise en scène de la nature. Et donc, c'est un lieu particulièrement donc cinématographique. Mais en fait, s'il m'est venu à l'esprit, le jardin, c'est d'abord et surtout à cause d'un mot valise, avant garden, un mot valise inventé par le critique et théoricien du cinéma expérimental Scott MacDonald. Dans un livre de 2001 qui s'appelle « The Garden in the Machine » et non pas « The Machine in the Garden ». Et donc cette fusion de l'avant-garde et du garden, c'est plus précisément le titre du troisième chapitre de ce livre, donc Avant-Gardens, qui examine ici plus particulièrement la présence des jardins, hein, puisqu'il y a différents types de jardins, dans le cinéma expérimental américain. Alors peut-être juste au passage vous dire que donc c'est un livre qui plus largement porte sur les l'importance des paysages naturels dans le cinéma d'avant-garde essentiellement américain, mais vous aurez peut-être reconnu ici dans le titre de l'ouvrage une référence à un autre ouvrage qui est très important dans le champ de la critique littéraire aux États-Unis, c'est le livre de Leo Marx, The Machine in the Garden, un livre de 64 qui traitait de l'imaginaire pastoral dans la littérature américaine du 19e siècle. Notamment, on le voit un petit peu d'ailleurs ici sur la couverture, même si l'image est moins lumineuse vidéo projetée que sur l'écran de l'ordinateur. Mais vous apercevez peut-être le train qui arrive dans dans ce paysage pastoral américain. Et on peut dire que c'est un des points de départ du livre de Leo Marx que d'interroger ce motif littéraire de l'arrivée du train dans la nature. On a ça chez Thoreau, chez Emerson. Il travaille aussi sur Melville, Hawthorne, etc. Et peut-être que vous avez noté d'ailleurs que le chapitre de Scott MacDonald, lui, s'ouvre aussi par une citation d'un livre de Celia Thaxter, qui est une poétesse et écrivaine américaine du 19e siècle. Et je trouvais ça assez intéressant. Il faudrait poser la question à Scott MacDonald, mais en fait, évidemment, Celia Thaxter n'est pas dans le livre de Leo Marx. Elle n'y figure pas. Comme d'ailleurs n'y figurent pas beaucoup d'écrivaines. Et il me semblait que peut-être, donc si on reprend la citation, il est question du plaisir, de la joie très presque lyrique qu'elle éprouve à ensemencer, à planter des graines dans son jardin. Un geste qu'elle décrit avec beaucoup d'applications et de détails. Et il me semble que dans cette joie à la fois extrêmement banale et qui est l'objet d'un développement extrêmement lyrique, il y a quelque chose qui la place un peu aux antipodes de toute une série d'écrits littéraires qui voient plutôt des hommes, souvent des hommes en fait, partir se confronter à la wilderness et retrouver une sorte de sauvagerie primordiale dans cette expérience de la nature. Et peut-être que le fait que Scott MacDonald mette cette citation en exergue de son chapitre dit aussi que les femmes ont beaucoup à voir avec cette histoire et cet imaginaire du pastoralisme américain, que c'est vrai non seulement dans la littérature du 19e siècle, mais encore plus dans le cinéma d'avant-garde au 20e siècle. Et il dit d'ailleurs au début de ce chapitre une grande partie des films dont il va être question sont l'œuvre de réalisatrices et qui voient en cela l'héritage d'une tendance si forte au 19e siècle qui voulait que les femmes explorent leur jardin pendant que les hommes partaient pour des paysages plus vastes et plus sauvages. Donc dans ce chapitre, Scott MacDonald revient sur l'importance du jardin dans le cinéma d'avant-garde américain, non seulement comme motif iconographique, mais aussi comme détournement critique du mythe biblique. Et vous allez voir que en fait, le jardin auquel pense Scott MacDonald, c'est le jardin d'Éden. Et donc, c'est le lieu du couple édénique, hein, de Adam et Ève. Mais aussi, il y a une autre dimension, je pense, plus matérielle, en fait, de ces jardins et de leur importance dans le cinéma d'avant-garde. C'est comme écosystème. Et un certain nombre des films dont il est question dans cet ouvrage sont des herbiers, on pourrait dire des herbiers expérimentaux. Puisque le cinéma expérimental n'est pas seulement un cinéma qui représente des réalités ou des récits, mais qui parfois procède simplement un peu comme le ferait la peinture par l'adjonction d'un certain nombre de matériaux à même la pellicule par contact direct. C'est le cas notamment de Stan Brakhage dont on va parler ensuite. Alors, je vais juste rapidement le citer. Il explique que l'une des traditions du cinéma d'avant-garde a consisté à dépeindre le jardin comme l'envers critique des conventions romantiques hollywoodiennes. Fin de la citation. Donc, en effet, dans les comédies romantiques de l'âge d'or, on peut dire que Adam et Ève, hein, le couple qui va se former au cours du film, sont faits l'un pour l'autre et promis à un Éden de classe moyenne où ils vivront heureux jusqu'à la fin des temps, puisque, en somme, cet Éden-là, ce serait les zones pavillonnaires. Et ce modèle de bonheur, c'est celui de la conjugalité hétérosexuelle. Et j'insiste parce que je pense que c'est exactement ce que remettent en cause les cinéastes de l'avant-garde américaine. Au contraire, en fait, si vous regardez les films, alors je vous ai mis juste quelques captures, les films de Mary Mencken, par exemple, Glimpse of the Garden, qui est un film de 57, ou bien de Stan Brakhage. Donc ici, c'est le film dont il est question dans le chapitre de McDonald, qui s'appelle donc ce film s'appelle The Garden of Earthly Delight. N'y voyez aucune. En fait, le titre fait référence évidemment au jardin des délices, mais en fait, il n'y a pas d'autre référence autre que le titre, puisque le film est essentiellement un collage de matière végétale que Brakhage a ramassé et disposé sur la pellicule. C'est un film de 81. Mais en réalité, peut-être le film que vous connaissez et qui résonne avec celui-ci, c'est un film de 63 qui s'appelle Mothlight, qui correspond à la première, en fait, l'une des premières tentatives de Brakhage de composer un film, non pas végétal, mais disons plutôt animal, puisqu'il s'agit de coller plutôt des insectes, des éphémères. Vous savez, ces insectes attirés par la lumière et qui du coup deviennent les symboles de cette vie éphémère aveuglée, attirée par la lumière et voilà. Et donc tout ce film composé d'une sorte de matière organique est au principe de Mothlight, donc de cette lumière éphémère en 63, principe qui est repris ici dans ce film de 81, qui est donc un film fait sans caméra. Chez Mary Mencken, dont je parlais juste avant, c'est un petit peu différent, puisque elle filme un jardin qui était visiblement assez extraordinaire, puisque c'était le jardin d'un jardinier complètement obsessionnel, Dwight Ripley, qui s'avère être aussi l'amant de son mari. Mary Mencken, elle était mariée avec un peintre, Willard Maas, qui est aussi un cinéaste d'ailleurs. Et donc celui-ci avait Dwight Ripley comme amant. Il se trouve que Mary Mencken s'entendait très bien avec l'amant de son mari. Et que donc elle a réalisé ce film dans son jardin, qui était un jardin tout à fait extraordinaire, puisqu'il collectionnait des plantes venues du monde entier et qu'il les cultivait avec un soin maniaque. Et d'une certaine manière, de façon assez drôle, elle oppose à cette espèce d'obsession de l'organisation et de la gestion du jardin qu'il avait, une vision beaucoup plus fragmentaire et parcellaire, puisque on n'aura jamais une vision totale du jardin et de son ordonnancement, quoi. Donc il s'agit en quelque sorte d'imaginer une sorte de contrepoint à cette grande mise en scène qu'est le jardin de Dwight Ripley. C'est un film auquel j'ai beaucoup pensé dernièrement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Pierre Creton, cette promenade avec Mark Brown, mais c'est sur cette question de l'herbier. C'est un film qui, pour moi, résonne beaucoup. Qui d'autre? Alors ça, c'est un autre peut-être sous-chapitre de ce parcours à travers le cinéma expérimental de ces années 50 et 60 par Scott McDonald. C'est les films de Carolee Schneemann et Kenneth Anger, dont je parlerai ensuite. Ici, Fuses, un film de 67 par Carolee Schneemann, qui en quelque sorte réinterprète le mythe édénique d'une manière très littérale et transgressive, en filmant pendant plusieurs mois ses ébats avec son compagnon de l'époque. Donc c'est un film, on pourrait dire, strictement pornographique. Enfin, c'est un film qui met en scène la sexualité au sein de leur couple, mais qui est ensuite entièrement retravaillé, notamment avec, ici vous le voyez d'ailleurs un petit peu sur la pellicule, elle a ajouté de la peinture, elle a ajouté toute une série de couches, en fait, qui parfois d'ailleurs ont rendu la pellicule si épaisse qu'elle passait plus dans le projecteur. Il s'agit à la fois de, en quelque sorte, de déjouer le voyeurisme qui pourrait être celui du spectateur face à ce spectacle de la nudité et du sexe. Mais il s'agit aussi de, en quelque sorte, venir requalifier ces images pour en faire saillir la dimension sensorielle, charnelle, physique et tout ce qui est de l'ordre plutôt ici du ressenti des amants. Et un peu en miroir de ce film-là, un film plus ancien de Kenneth Anger, qui est l'un des grands noms de l'avant-garde américaine, Eau d'artifice, hein, qui fait un petit peu écho au film le premier film qu'il a rendu célèbre, Fireworks. Et ici, dans ces eaux d'artifice, en fait, on est dans les jardins de la Villa d'Este, mais vous voyez que, vous pouvez peut-être percevoir dans ce plan tous les jeux d'eau de ces jardins sont filmés comme une espèce de gigantesque mise en scène érotique. On a du mal à ne pas ensuite voir ce jardin comme un spectacle extrêmement pornographique. Et je vais terminer avec donc trois autres cinéastes qui sont présentes dans ce chapitre. Marjorie Keller, The Answering Pharaoh, un film de 1985. Alors Marjorie Keller est moins connue dans le champ du cinéma expérimental, mais ici, ce qui est assez fascinant, c'est que ce qui intéresse MacDonald, c'est ce film qu'elle fait dans le jardin, plutôt d'ailleurs potager, hein, de son père à la périphérie de New York, qui est pour elle un lieu un lieu lié à l'enfance, à la filiation, et aussi un lieu qui est lié aussi à la notion de racine, hein, de lieu auquel on appartient. Et elle fait une sorte de traversée de ce jardin en retournant au Géorgique de Virgile. Donc il y a une manière aussi de créer toute une intertextualité à travers ces images. Et de la même manière, mais différemment, le jardin est pour Anne-Charlotte Robertson un lieu de refuge. Vous connaissez peut-être Robertson parce que elle a fait l'objet d'une grande rétrospective l'année dernière, je crois, maintenant au Festival du film documentaire à Londres. Elle est connue pour, notamment, c'est une cinéaste qui a tenu toute sa vie presque, enfin pendant une grande période de sa vie, un journal filmé, un peu à la manière de Jonas Mekas, sauf que elle souffrait notamment de dépression très sévère, et c'est quelqu'un qui a connu plusieurs périodes d'internement dans sa vie. Et donc le journal est une manière une sorte de chronique de ses états psychiques, dans lequel le jardin apparaît comme un lieu d'apaisement. C'est l'endroit où elle retrouve une forme de sérénité. Et la dernière... Ah mince, du coup, pardon, j'ai oublié Rose Loader. Donc j'ai oublié de mettre une image. La dernière des cinéastes convoqués dans ce chapitre, c'est la cinéaste Rose Loader, qui est encore vivante, qui vit à Avignon, hein, qui est une des grandes représentantes du cinéma d'avant-garde encore active aujourd'hui. Et Rose Loader, c'est quelqu'un qui a un parcours assez passionnant, parce que c'est quelqu'un qui a dès le départ pensé le cinéma, la caméra et le cinéma comme un outil de recherche plastique. Elle a fait d'ailleurs une thèse sous la direction de Jean Rouch à Nanterre, autour des possibilités plastiques et techniques du film. Et elle a toute une œuvre d'avant-garde dans laquelle la botanique tient une place de choix pour repenser complètement un petit peu les formes du cinéma structurel en allant vers quelque chose de beaucoup plus organique. Alors voilà, donc pour chacun et chacune de ces cinéastes, le jardin est un espace à réinventer, un envers critique de l'Éden hollywoodien et de son modèle hétérosexuel. Une terre en friche, où cultiver d'autres alliances entre les êtres et d'autres modèles écologiques. Et le livre est paru, enfin l'ouvrage, pardon, de Scott MacDonald est paru en 2001. Alors en 2001, on parlait pas encore beaucoup d'enjeux éco-critiques, en tout cas dans le champ des études cinématographiques. Et il me semble que si MacDonald actualisait aujourd'hui son chapitre, peut-être qu'il le composerait un peu différemment. Sans doute qu'il y ferait apparaître d'autres cinéastes, par exemple Charlotte Price, qui est une cinéaste que moi je trouve incroyable. Donc j'ai choisi de mettre une image, un photogramme d'un de ses films en illustration, même s'il ne sera pas question d'elle aujourd'hui, mais qui est l'une de ces cinéastes qui littéralement fait des films dans son jardin et les développe manuellement. Oui, et il y a tout ce travail sur la pellicule, la matérialité de la pellicule, enfin tout y est quoi. Et donc j'en étais là de mes réflexions en me disant comment finalement ce chapitre on pourrait l'actualiser, le réécrire, le compléter aujourd'hui. Quand j'ai découvert la programmation du Festival des cinémas différents et expérimentaux donc de Paris, la programmation co-réalisée par Charlie. Écologie égale jardinage plus lutte des classes. Alors j'ai trouvé l'intitulé assez passionnant et je me suis dit tiens, ce serait intéressant de demander à Charlie comment est-ce qu'il dialogue avec ce texte de McDonald. Et donc en découvrant les séances de cette programmation au Grand Action, j'ai eu envie de lui proposer d'intervenir dans cette séance pour qu'on puisse dialoguer autour de ces films. Voilà. Et peut-être un dernier mot parce que pour présenter Charlie, dont d'ailleurs on a édité un livre collectif récemment chez Mimesis, justement sur des questions de matérialisme, de néo-matérialisme. Charlie est l'auteur d'une thèse sur l'émergence au sein du mouvement des laboratoires argentiques artisanaux, de l'émergence d'un nouveau matérialisme, c'est-à-dire tout ce matérialisme photochimique qui consiste à travailler donc sans caméra, par contact direct entre la pellicule photochimique et des éléments environnementaux. Donc tout toutes les expérimentations de cinéastes qui vont travailler en enterrant des pellicules dans le sol, dans un sol contaminé ou pas, en travaillant sur la fabrication d'autres émulsions pour développer le film argentique. Voilà. Donc c'est peut-être des choses aussi qui vont résonner dans ces propositions. Et j'ai déjà été trop longue, donc je te cède la parole.
Bonjour, merci aux organisatrices de la journée et à Alice de m'avoir invité à vous parler. Je vais peut-être m'asseoir, moi, j'avoue. Donc, je vais parler un tout petit peu de la question, enfin de cette programmation au festival, et puis justement proposer un certain nombre de films dont on va regarder les extraits qui répondent d'une certaine manière à la fois à cette question d'avant-garden de Scott McDonald, qui aurait pu peut-être s'intégrer dans le festival aussi, et qui essaye aussi de répondre au moins de manière un petit peu oblique à la question des espaces périurbaines. Mais voilà, donc effectivement, donc l'année dernière, j'étais en octobre directeur artistique du Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, où on avait choisi donc le thème déjà cité, qui était écologie égale jardinage plus lutte des classes. Donc pour parler rapidement de ce thème, l'idée quand on l'avait défini, c'était donc bien sûr de jouer sur ce slogan célèbre qu'on voit écrit sur les murs ou scandé parfois en manif, qui vient d'un syndicaliste brésilien, Chico Mendes, qui disait que l'écologie sans lutte des classes n'est que du jardinage. Donc on s'est dit qu'on allait jouer un petit peu avec ce slogan, et peut-être qu'on trouvait plus intéressant, à la fois politiquement, mais aussi en termes de pour des idées de programmation, au lieu d'opposer jardinage à lutte des classes, c'est de voir l'idée que une pensée écologique ou une écologie politique doit être ou pourrait être en tout cas une articulation entre ces deux termes, faire de l'addition plutôt donc que de la soustraction. Donc si écologie égale si écologie moins jardinage moins lutte des classes égale jardinage, si on refait une formule mathématique, ça veut dire la même chose que écologie égale jardinage plus lutte des classes. Du coup, cette idée d'articuler les deux, ces notions de jardinage et lutte des classes, on se disait voilà, que ça voudrait dire donc penser la lutte des classes ou les luttes des classes ou les luttes sociales à partir d'un rattachement à quelque chose qu'on appellerait jardinage et inversement, mais que cela ne fonctionnerait seulement si on comprend jardinage dans un sens assez large, un sens qui correspondrait plutôt à la manière dont parle du jardinage, dont parle l'auteur, le jardinier et botaniste Gilles Clément, quand il parle de jardinage ou des jardins de résistance dont il parle et autres termes comme ça. il parle du jardinage finalement comme une expression possible des multiples relations qui se nouent entre humains et non-humains. Donc, il parle justement, par exemple, des jardins de résistance qui définissent plus largement, selon lui, une sorte d'art de vivre, où on tenterait donc de faire le plus possible avec et le moins possible contre les énergies en place. Donc, c'est-à-dire, en gros, que penser le jardinage comme ça, comme, à la fois comme pratique, mais aussi comme métaphore, presque, c'est un sens... C'est dans un sens des pratiques et des modes de vie qui tentent de prendre en compte le plus possible le monde et les éléments environnementaux qui nous entourent, de vivre et travailler avec l'environnement et les environnements plutôt que contre ou plutôt qu'en les ignorant. Du coup, jardinage, dire jardinage plus lutte des classes dans ce sens-là, c'était l'idée que les luttes sociales donc, doivent prendre en compte l'environnement, le non-humain, et comment ces éléments affectent nos conditions sociales, affectent les luttes en elles-mêmes, mais aussi que penser les rapports humains et non humains ne peut être divorcé de considérations proprement politiques et sociales, que ça ne doit pas être des questions simplement abstraites de l'environnement, c'est bien, c'est justement un sort de jardin Éden auquel il faut revenir, mais il faut les réintégrer dans une histoire des luttes politiques. Du coup, en termes de programmation, cette idée d'articulation entre ces deux termes nous semblait assez intéressant et important pour la manière de penser, programmer des films expérimentaux autour de cette question de l'écologie, car ça permet à la fois de chercher et de montrer des films plus ou moins qui seraient plus ou moins ouvertement éco-militants, mais aussi d'articuler au sein des séances des films plus directement militants avec des films plus peut-être contemplatifs ou concernés plus par les questions d'esthétique des rapports humains et non humains, et que faire cette articulation à travers la programmation du festival permettait donc de recontextualiser chacun de ces types de cinéma, donc des films proprement éco-militants, des films plus de contemplation de la nature, et les articuler ensemble permettait donc de les voir différemment, de politiser peut-être ou de questionner les partis pris politiques de films plus contemplatifs et aussi de réintégrer des questions éco-militantes dans des questions d'esthétique des relations avec le non-humain. Du coup, pour le dire vite, et j'ai un programme d'ailleurs que j'ai oublié de le ramener avec moi, mais je pourrais vous le faire circuler tout à l'heure. Il y avait donc 7 programmes focus dans ce festival en octobre. Donc la première séance était sur The Garden, film de Derek Jarman, qui parle donc à partir de son jardin à lui, à Dungeness, et qui réinterroge des questions, les histoires bibliques à partir de son jardin en parlant de à la fois les années SIDA et le rapport nucléaire, tout en ayant des imageries totalement bibliques. Donc ça nous semblait un bon film pour commencer le festival, et c'était introduit par une conférence performée du chercheur et militant Sylvester Maupois. Puis on avait une séance sur qu'on appelait matière sensible, esthétique de l'inanimé, qui montrait des films plutôt sur les relations justement humains avec des matières plutôt inanimées, des rochers, des pierres, le sable, des films de Raymond de Carrasco, Nathalie Eldorski et de Philippe Hoffman. Puis on avait une séance où on montrait un certain nombre des songs de Braquage, donc ce cycle de films qu'il a fait à partir des années 70 pendant quelques années, et pour le coup on montrait ces films dans leur format original en 8 mm qui était la première fois que c'était montré dans ce format depuis les années 80. Puis une séance sur les rapports avec les animaux, une séance qui s'appelait l'anime animé. Une séance sur la question du slow violence, ou violence lente, donc, qui interrogeait la manière dont le changement climatique est une forme de violence aussi coloniale, mais violence qui est beaucoup moins spectaculaire, qui arrive petit à petit, mais qui finit par affecter en premier lieu, bien sûr, les pays et les communautés du Sud global. Une soirée, le capitalisme détruit, qui était fait de films proprement directement militants et éco-militants, et enfin finissait avec une performance du collectif La Trêve, fait d'images et d'enregistrements sonores du plateau volcanique du Velay. Donc, tout ça pour présenter un peu le festival qui a eu lieu. Et aujourd'hui, en fait, je ne vais pas tant présenter des films qui étaient montrés au festival, à part si, enfin, le dernier film dont je vais parler était dans le festival, mais plutôt présenter une sélection de films qui auraient pu y entrer, en relation, enfin qui auraient pu y rentrer, mais qui peut-être rentrent plus en résonance justement avec ce chapitre de Scott McDonald. L'invitation d'Alice donc était effectivement de réfléchir autour de cette notion d'avant-gardens décrite par Scott McDonald et voir si elle a du sens pour des films expérimentaux plus contemporains. Donc, comme disait Alice, il utilise ce terme dans c'est le titre, pour parler d'un certain rapport du cinéma expérimental, un rapport subversif du cinéma expérimental, notamment américain, avec l'idée donc du Jardin d'Éden, qui, selon lui, comme a un peu mentionné Alice, le cinéma et la société mainstream américaine ou bourgeoise, petite bourgeoise américaine, a transformé le Jardin d'Éden en groupe, en métaphore pour une sorte de pureté d'une certaine amour hétérosexuel et hétéronormé. Or, du coup, les films et les cinéastes qu'il cite subvertissent cette approche du Jardin d'Éden de plusieurs manières, retravaillant l'idée du jardin pour correspondre à des pratiques, des modes de vie, des philosophies ou des politiques plus marginales ou radicales. Il y avait donc aussi, essayer de réfléchir à un programme de films à vous présenter ou d'extraits en tout cas qui parle à la fois, qui partait à la fois des réflexions qu'on avait dans le festival et de cet article, mais aussi donc la question de rattacher cette notion au sujet plus précis de cette conférence, l'éco-poétique de la vie périurbaine. Ça finissait par être une niche assez précise de cinéma expérimental qui serait dans des espaces périurbains et des jardins, etc. Mais donc, ce que j'ai essayé de faire en choisissant les films aujourd'hui, c'est d'avoir des films qui, peut-être de différentes manières, répondent un peu à ces trois approches. Donc, jardin qui montrerait donc le jardin comme espace qui exprime une certaine pratique de la marginalité, donc prendre le périurbain un peu comme presque métaphore plutôt qu'espace réel dans ces films-là. Mais du coup aussi des films qui prennent le jardin comme motif, lieu ou métaphore pour subvertir cette idée donc d'un Éden de la pureté des relations hétéronormées, patriarcales et bourgeoises du cinéma mainstream américain a priori, et qui peuvent donc effectivement exprimer des relations différentes entre humains et non-humains. Et en effet, on peut penser les jardins, et dans le programme justement que je ferai circuler, on avait établi une sorte de ce qu'on avait appelé un bouquet de citations de plusieurs personnes qui parlent des rapports de jardin avec le cinéma ou des jardins avec la société, etc. Et la première citation qu'on avait mise, c'est une citation de Foucault. Et effectivement, on peut, comme Foucault, penser donc dans ces termes que je viens de mettre comme des hétérotopies. Bien sûr, aujourd'hui, tout est un peu hétérotopie, on utilise ce terme un peu constamment. Mais bon, là, pour le coup, Foucault a bien dit que c'est les jardins qui étaient des hétérotopies d'abord. Il dit « le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et puis c'est la totalité du monde ». Mais donc, du coup, effectivement, dans cette idée de la marginalité, de la subversion et d'exprimer des relations humains et non-humains, on voit que le jardin, dans ces films, sent souvent donc une sorte de rencontre entre intimité et monde extérieur, que le monde extérieur soit perçu comme social ou comme environnemental. Qu'on va voir que le jardinage devient une sorte de métaphore pour des pratiques mineures, mais c'est aussi des pratiques partagées individuel, mais parfois partagé. C'est des sortes de cocons où on peut travailler avec les mains et ce genre de choses, mais aussi un lieu d'exposition de soi à l'extérieur. Donc, c'est cette sorte d'espace d'entre-deux, d'où peut-être sa place donc, dans cette réflexion sur l'éco-poétique du périurbain. Donc, j'ai choisi les films dont je vais parler en m'inspirant, comme je l'ai dit, du chapitre de McDonald's, un peu comme presque des réponses aux films, des réponses, pas exactement un à un, mais des réponses aux films dont il parle. Et je pense qu'en lisant l'article, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très intéressant, on peut isoler un peu trois fonctions ou caractéristiques qu'il pointe dans les jardins, ou dans les motifs ou les pratiques des jardins, ou les récurrences des jardins dans ces films. Premièrement, que ce sont des films où le jardin donc est, comme je l'ai dit, expression d'une sexualité autre que hétéropatriarcale ou d'un mode de vie autre que la norme. Et on voit ça plutôt surtout donc dans les films de Schneemann, de Kenneth Anger et de Anne-Charlotte Robinson, mais aussi des films où le jardin devient une sorte d'expression d'une autre manière de faire du cinéma, c'est-à-dire il y a souvent une sorte de métaphore ou d'analogie qui est faite entre le jardinage comme expression d'une sorte de vie simple, comme une expression de pratiques qu'on fait avec les mains de manière un peu artisanale, et les pratiques expérimentales du cinéma qui, similairement, sont souvent des pratiques un peu intimes, faites avec les mains, et qui expriment une vie simple, ou en tout cas non industrielle. Et il y a cette opposition entre l'industrie, l'organique, etc., qu'on retrouve dans ces films de jardin. Et enfin, donc ça, c'est surtout cette question d'expression d'une autre manière de faire du cinéma. C'est donc dans les films de Menken, de Braquage, de Marjorie Keller, justement. Et enfin, troisièmement, et c'est de toute façon des catégories ou des fonctions qui se recoupent, des films qui invitent à regarder donc l'environnement différemment, peut-être qui proposent d'une certaine manière des sortes de perceptions ciné-écologiques. C'est le cas surtout de Rose Lauder qui, comme l'a dit Alice, a beaucoup travaillé sur cette notion de regarder, de travailler sur la perception cinématographique à travers le montage et l'objet de ces perceptions est constamment écologique ou horticulturel. C'est effectivement le cas chez Menken et chez Braquage aussi. Dernière chose à dire avant que je présente les films, vous allez voir par ailleurs que justement tous les films dont je vais parler, bien qu'ils ont été faits dans les 10 années, je pense que le plus ancien est de 2011, je vais parler d'un film de 2011 aussi, tous ont été réalisés dans les 10 ou 15 dernières années, mais ils sont tous faits en pellicule. Et ils sont pour la plupart par ailleurs faits à la main, développés à la main ou travaillés à la main, etc. Il y a d'autres films et il aurait pu être question et pu être intéressant de réfléchir à cette question aussi des jardins et le numérique, c'est-à-dire les jardins par ailleurs et les nouveaux médias, les questions de IA, etc. Mais il y a quand même, au-delà du fait que le cinéma argentique et contemporain, je le connais mieux de toute façon, mais il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qui semble assez instinctivement correspondre justement entre la question de l'artisanat et la création pellicule, une sorte d'organicité, peut-être parfois même quand même un peu fantasmée de ce médium, mais aussi le lien avec la création photochimique aujourd'hui est très lié à ces espaces souvent périurbains par ailleurs, un peu marginal que sont les laboratoires autogérés photochimiques où les cinéastes reprennent en main eux-mêmes dans ces laboratoires qu'ils ont montés eux-mêmes, les machines et les outils de la création photochimique, de développement, etc. Et donc une sorte de lien entre ces espaces-là et les jardins ou la représentation des plantes dans le cinéma expérimental. Et justement, si vous avez vu le dernier film de Pierre Creton et de Vincent Barré, cette promenade avec Marc Brand, c'est peut-être pas justement un hasard que tout le premier moitié du film où on voit les personnes déambuler dans les jardins, dans les forêts, jardins, et filmé en numérique, mais que dès qu'on passe à la deuxième partie, à l'herbier, on est en pellicule. Donc il y a peut-être quelque chose d'assez instinctivement lié entre argentique et plantes et organicité et jardin. En tout cas, donc, quand on parle de botanique de cinéma expérimental contemporain, il est difficile de ne pas commencer, me semble-t-il, avec l'œuvre d'un cinéaste néerlandais qui s'appelle Karel Doering. Donc, Karel Doering, donc, comme je l'ai dit, est cinéaste néerlandais. Il est un peu aussi, par ailleurs, un peu le père du mouvement des laboratoires autogérés un peu partout dans le monde. C'est lui et deux autres personnes, à la fin des années 80, ont été les premiers à Arnhem à ouvrir un labo autogéré de la même, enfin, dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, un endroit qui s'appelle Studio EEN. E-E-N. Et depuis 2016, il a élaboré une technique de création cinématographique qu'il appelle la phytographie, où il fait des phytogrammes. Et c'est une technique où, en gros, il peut. En fait, il intègre la chimie, la biochimie des plantes dans la chimie qu'il utilise pour développer ses films. C'est-à-dire, du coup, il essaye d'intégrer une conscience écologique, c'est-à-dire que du coup, c'est de la chimie qui devient de plus en plus biodégradable, dans sa pratique même de la matérialité du cinéma. Et en gros, c'est une technique où il peut faire tout dehors, déjà. C'est-à-dire que tout le film devient exposé. Enfin, il y a 100 caméras, mais tout est exposé à la lumière. Et il utilise la chimie des plantes, ou ce qui se trouve dans les plantes, et qui interagit avec d'autres chimies plus ou moins non toxiques, pour développer des films. Et il fait du coup des films à partir de 2016 où il appose des plantes sur la pellicule en utilisant cette technique de phytographie. Donc on peut le voir comme une sorte d'héritier des pratiques de braquage Moss Light et Garden of Earthly Delights, etc. Mais en allant plus loin, c'est-à-dire en allant plus loin dans le sens de même aussi de retravailler la chimie même, le développement même à partir de plantes qu'il trouve souvent autour de lui. Quand il fait ses workshops, l'idée c'est de faire du cinéma avec les plantes qu'on trouve autour de là où on se trouve. Et il y a peut-être aussi, à la différence de braquage, on finit par ne plus avoir cette question un petit peu romantique de « on va retrouver une perception qu'on aurait perdue avec la civilisation », mais plutôt quelque chose encore plus matérialiste ou concret, que comment les plantes peuvent elles-mêmes collaborer presque, ou en tout cas intégrer la création de leur propre image. Sur la pellicule. Donc, je vous montre un extrait donc, de Phytographie, qui est un film de 2020, pour voir un peu de quoi je parle. À chaque fois, je vais montrer un extrait à peu près d'une minute, parce que j'ai quelques films et il ne nous reste plus que 20 minutes. Mais voilà, vous voyez un peu déjà le genre de. Vous avez un peu l'idée du film qui crée ces sortes d'esthétique assez particulière à partir de cinéma sans caméra et entièrement fait avec des plantes trouvées sur place. Pour étendre un petit peu, enfin pour aller un peu plus loin d'une certaine manière et une cinéaste qui fait des choses assez similaires mais qui donne à son travail une thématique plus politisée peut-être, ou en tout cas féministe. On peut parler de Kelly Egan, cinéaste canadienne, Kelly Egan, E-G-A-N, qui effectivement elle aussi fait partie du mouvement de la communauté des laboratoires autogérés, mais qui a une pratique assez particulière du cinéma, qui est que à la fois donc elle développe elle-même tous ses films, mais surtout ses films, ou en tout cas une série de ses films faits entre 2014 et 2018, me semble-t-il, ont été sont en fait construits d'abord comme presque des sculptures, ou en tout cas des choses qui sont censées être montrées, non pas projetées, mais dans des galeries. En fait, ce qu'elle fait avec la pellicule, c'est qu'elle fait ce qu'elle appelle des quilt films, c'est-à-dire elle utilise la pellicule pour créer des courtes pointes, c'est comme ça qu'on dit ça en français, c'est-à-dire des sortes de grands tableaux où elle utilise la technique de la courte pointe pour créer des sortes de sculptures ou presque des tableaux, et que après les films sont, quand elles se sont projetées, c'est presque aléatoire ce que le film va, enfin en tout cas pas aléatoire, mais plus elle va pas savoir ce que le film va donner quand elle le projette, parce que elle crée ses films plutôt comme des installations, et après quand c'est projeté linéairement, le montage est fait pas en fonction d'une question linéaire de progression de l'image, mais plutôt une progression dans l'espace de la courte pointe. Elle, dans ce film, dans un film qu'elle a fait en 2016 qui s'appelle Aetherium Felix Femina. Non seulement donc elle a fait ce quilt, cette courte pointe, mais c'est en fait un sort d'herbier fait avec avec la technique de la cyanotype. La recette, pardon, qu'elle a fait pour la cyanotype est celle qui a été élaborée et publiée par la première femme, enfin la première personne tout court à publier un livre de photographie qui s'appelle Anna Atkins, qui avait en 1843, plusieurs mois avant Henry Fox Talbot avait publié The Pencil of Nature, avait publié la première donc livre de photographie en cyanotype qui s'appelait Photographs of British Algae, a Cyanotype Impression. Donc elle utilise cette recette, elle en fait un film herbier où elle tisse, où elle courte pointe, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme un verbe, elle courte pointe les images où elle fait des impressions cyanotypes de plantes, pareil, qu'elle a trouvées autour de chez elle, ou enfin plutôt du jardin de chez ses parents à Ontario. Et elle tisse avec à l'intérieur de ça aussi des images qu'elle avait trouvées dans une poubelle, en gros, du laboratoire, d'une petite fille se faisant harceler par des garçons. Et donc, avec l'association à la fois de cette question de faire des quilts, de la courte pointe, de faire la cyanotype en utilisant la recette de la première, de cette pionnière Anna Atkins, qui a été un petit peu oubliée, enfin, même si aujourd'hui un peu moins, il y a eu beaucoup de travail pour la restituer dans l'histoire de la photographie, et de le tisser avec ces images de cette femme qui se fait harceler, l'herbier, les plantes, la cyanotype, cette manière de travailler devient toute une question de questionner la centralité des hommes dans l'histoire des arts et du cinéma, et de questionner ou de critiquer les formes qui en ont résulté. Et donc du coup, là, l'herbier, les plantes est associé à une histoire des pratiques féminines dans l'histoire des arts, ou traditionnellement en tout cas féminines, qui ont été un peu mis de côté, enfin qui ont été même carrément mis de côté ou souvenus ou mis de côté parce que fait par des femmes. Donc là, une pratique qui a un rapport avec celle de Carel Dowing, mais où l'herbier devient carrément associé, justement, encore une fois, avec une pratique ou une pensée féministe de l'histoire du cinéma. Donc, cette question de cinéma artisanal et qui prend en compte ou qui tente de questionner la domination masculine à l'intérieur de l'histoire du cinéma à partir de ces pratiques artisanales me fait arriver donc à un autre cinéaste. Donc cette fois-ci cinéaste turc-américain qui s'appelle Nazlı Dinsel. Donc Nazlı Dinsel, qui a fait pas mal de films, surtout entre, disons, 2010 et 2018. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti un nouveau film, mais il a l'air de faire autre chose, des installations et des trucs comme ça en ce moment. Mais a eu un succès assez important à un moment, surtout parce que ses films étaient assez provocants, assez explicites, souvent faits à partir d'images de personnes se masturbant, d'images assez sexuellement explicites, une manière très explicite très intéressante de tisser ces images assez provocantes, explicites, avec une pratique encore une fois de la matérialité même de la pellicule, mais aussi avec la parole et les textes. Et c'était tous ces films sont des sortes de réflexions sur l'intimité exposée, sur sa propre, sur son propre corps, sur les corps, donc sur son propre corps en étant une personne non binaire, venant d'une famille musulmane immigrée aux États-Unis, et qui explicitement fait un cinéma queer féministe et non binaire. Or, ce qui est assez intéressant aussi avec ces films, c'est qu'il y a très souvent des images et des relations avec des jardins ou des plantes ou la botanique. On peut citer très rapidement Leafless, un film qu'il a fait en 2011, où il y a le film Le corps de son mari de l'époque, en l'associant avec des textures des arbres du jardin qui n'étaient pas très loin de là où ils habitaient à l'époque. Donc, quelque chose un petit peu... Enfin, peut-être son film un peu plus classique, car assez tôt, 2011. Mais où l'on voit, en tout cas... Donc, ces films sont... Enfin, ce film-là est silencieux. On voit en tout cas les prémices de quelque chose qui va faire beaucoup la spécificité du cinéma de Nazlı Dinsel et qui fait que me semble que son cinéma fait vraiment la sorte d'extension en plus queer et un peu plus radical, mais aussi plus angoissé peut-être, du cinéma de Karoly Schneemann, qui est que tout devient corps. Tout devient corps, et non seulement tout devient corps, tout devient son corps. Et du coup, expression de ses propres angoisses, de ses propres sexualités, de ses propres orgasmes, parfois, ou plutôt, dans d'autres films, déception sexuelle, etc. Et le film, peut-être, qui est le plus intéressant pour ça, de cette notion de cette idée d'associer images de jardin ou de plantes ou de botanique avec ces questionnements sexuels et de son corps. C'est un film fait un peu plus tard, en 2015, qui s'appelle donc Solitary Acts numéro 6. Qui fait partie d'une trilogie de films Solitary Acts, qui commence donc avec Solitary Acts numéro 4, où elle questionne où en tout cas montre et explore la question de la sexualité enfantine ou sa sexualité enfantine, donc la première enfin, Solitary Act numéro 4, et surtout pas mal de textes qu'elle a écrit elle-même dans le dans la pellicule sur des images d'elle. Donc du coup, elle n'avait pas encore fait cette transition à ce moment-là, en train de se masturber. Or, dans Solitary Acts, c'est un film sur où à l'époque, elle essaie de faire une critique de le mythe Oedipe repris par Freud, en imaginant donc qu'un enfant qu'elle avait avorté n'est en fait pas mort et devient son amant. Or, elle montre ça, elle raconte cette histoire dans le texte sur des images qu'on va voir où les plantes deviennent des sortes d'extensions de son corps et d'extensions d'une masturbation. Elle met en scène. Donc la première moitié du film est composée de ces images assez étranges, étonnantes, où on a l'impression qu'on voit vraiment une sorte de masturbation clitoridienne, mais qui n'arrête pas de détruire la fleur, par ailleurs. Et la deuxième moitié du film est encore plus explicite. Là, pour le coup, on voit juste, là, cette fois-ci, un homme se masturber. C'est juste un gros plan sur sa main et son pénis. Mais voilà, cette intégration des plantes, de la botanique, du jardin, dans ces réflexions sur ces solitary acts, sur la sexualité qui est un peu tabou, la masturbation, surtout la masturbation enfantine, et puis l'idée qu'elle met en scène l'idée de... Enfin, qu'elle réfléchit au fait d'avoir une relation sexuelle avec son enfant qu'elle avait avorté. On va assez loin dans des questionnements de représentation de sexualité tabou, mais qui, effectivement, encore une fois, part de cette idée que tout est corps, tout est source de plaisir corporel ou de violence corporelle, que ce soit les plantes, le jardin, le monde qui l'entoure, ou la pellicule elle-même. Elle parle beaucoup de le fait de travailler la pellicule avec les mains, c'est aussi d'avoir un sort de corps à corps, d'une relation corporelle avec son art. Je vois que longtemps, donc je vais aller un peu plus vite. Cette idée de corps à corps me fait arriver donc à un autre film fait en 2019 par une cinéaste française, cette fois-ci, qui s'appelle Frédéric Menon, qui est documentariste et cinéaste expérimental. Elle fait partie des deux laboratoires qu'il y a à Paris, qui s'appellent l'Etna et l'Abominable, et où elle a justement cofondé à l'Etna un groupe de cinéastes féminines et féministes surtout, qui s'appelle La Poudrière. Et dans le jardin, on voit donc, c'est un film assez simple, mais assez belle, assez beau, où on voit cette femme, Thérèse Bandou, en Guadeloupe, qui jardine. C'est un film qui a été fait en marge d'un autre film que Menon était en train de faire, qui s'appelle Agua de Vinagre, sur le deuil, sur un deuil qu'elle éprouve justement en Guadeloupe. Et le film est simplement en train de regarder et de jardiner presque, de prendre ces images avec Thérèse qui jardine et qui, petit à petit, on comprend non seulement que l'acte de filmer, surtout l'acte de filmer avec sa petite caméra 16 mm, et le jardinage devient un peu la même chose, c'est d'être à corps avec... Euh, Voilà, là, on retrouve vraiment cette métaphore de la création cinématographique expérimentale, artisanale et photochimique comme jardinage, mais aussi on comprend petit à petit que le jardin, enfin qu'il y a un rapport plus ambigu avec le jardinage ici que dans d'autres films dont on a parlé, mais aussi des films de Scott McDonald, c'est que ça se trouve lié à une histoire de cette île. L'histoire d'une île colonisée, mais aussi à la question du deuil, que c'est en jardinant qu'on retrouve une relation avec le deuil. Et Thérèse dit à un moment dans le film que ce jardin, c'est mon deuil, et que pour moi, le corps et la terre, c'est la même chose. Donc, je passe. Bon, je suis désolé, je suis un peu long, du coup, les derniers films dont je parlerai donc reprennent cette idée à la fois, enfin reprennent donc cette idée d'ambiguïté des plantes et du jardin et des jardins dans les films expérimentaux contemporains, mais aussi cette question des rapports historiques et postcoloniales au jardin, qui n'est pas quelque chose que Scott McDonald mentionne dans son texte, mais qui pourrait vraiment très bien rentrer dans ce qu'il dit de cette critique du jardin d'Éden comme pureté de l'amour hétérosexuel ou patriarcal, parce que c'est aussi quelque chose, enfin voilà, très blanche, disons, ou en tout cas très américaine dominante. Et dans les derniers films dont je voulais parler, il y a cette notion de rapport au colonialisme qui rentre dans le rapport aux plantes qui sont en train d'être présentées à l'écran. Dans donc The Secret Garden, film de 2023 de Nour Ouaida, cinéaste libanaise, qui, si j'ai bien compris, a déjà été mentionné d'ailleurs à Urban Nature, enfin, ou même analysé, discuté l'année dernière, mais où donc on suit une sorte de fantaisie presque, ou une fiction de l'idée que tout d'un coup on se réveille à Beyrouth et que on découvre que des plantes mystérieuses se sont apparues dans la nuit, partout dans Beyrouth, et on se rend compte petit à petit que ces plantes viennent en fait d'un jardin secret et invisible qui serait quelque part dans la ville, et donc ils partent à la recherche de ce jardin secret. Et là, les plantes, le jardin dont ils parlent, a un statut assez ambigu. On ne sait pas très bien. Enfin, il y a toute cette question de l'envahissement de la ville par les plantes. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Surtout quand on parle de Beyrouth, la question d'envahissement de cette ville par des plantes ou des créatures qui deviennent de plus en plus étranges. Il y a une relation très ambiguë, très compliquée à cerner. Quelles sont ces plantes? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est un rapport avec le colonialisme? Mais c'est aussi des plantes qui semblent représenter des explosions. Enfin, ils apparaissent par tout d'un coup, etc. Et donc, ça fait lien avec le prochain film. Donc, je suis un peu en retard, désolé. Je parle donc très rapidement. Je mentionne juste les derniers films. Film de Ana Vaz, cinéaste brésilienne, qui s'appelle Atomic Garden, qui, me semble-t-il, se retrouve dans une continuité, d'une certaine manière, avec les cinémas de Rose Lauder, où justement on représente les fleurs, les jardins d'une manière plutôt dynamique que contemplative, de voir l'environnement non pas comme quelque chose qu'on doit contempler, etc., mais quelque chose qui est au contraire dynamique, vivant, explosif, mais aussi éphémère, parce que dans tout le film, elle met en scène une sorte de corrélation entre les fleurs de ce jardin de cette femme japonaise qui a dû partir de Fukushima, mais qui revient s'occuper de son jardin. Donc, corrélation entre ces fleurs et des feux d'artifice ou des explosions. Donc, jardin de cette femme qui a dû être évacuée de... Bon, Ben voilà un petit extrait de Fukushima. Et dans cette manière de faire une corrélation avec cette sorte de ces images stroboscopiques, avec les plantes et les feux d'artifice ou les explosions, on a une réflexion sur le jardin comme espace de vie et de mort, de transmutation, de résilience de la vie, mais aussi de la toxicité. Et on voit s'intégrer dans ces réflexions dans le jardin, quelque chose qu'il n'y avait pas nécessairement dans le truc de Scott McDonald, une conscience de plus en plus aiguë de l'écologie catastrophique, c'est-à-dire de la mortalité des plantes et de l'éphéméralité des mondes qu'on est en train de représenter à l'écran. Et ça finit donc, et je finis donc sur le dernier film de ce programme imaginaire peut-être que j'avais constitué, qui est un film donc d'un collectif mexicain, collectif indigène mexicain qui s'appelle Colectivo Los Ingravidos, qui sont un collectif qui existe depuis maintenant peut-être une dizaine d'années à peu près, et qui sont incroyablement prolifiques et qui font à peu près une centaine de films par an. Donc il y aurait pu avoir plusieurs films que j'aurais pu montrer, mais je montre ce film qui s'appelle Eroded Pyramid ou Pyramide Erosionade, fait en 2019. Parce que c'était un film qu'on avait montré dans le festival, mais aussi parce que ça, en fait, ce que vous allez voir, c'est effectivement, donc, on est encore dans ce dynamisme. C'est des images très, enfin, qui vont très vite, vous allez voir. Mais aussi, là, on finit par un film qui interroge les traces de l'histoire coloniale simplement dans les pierres et les plantes et les sortes de lieux, d'une sorte de ruines fantasmées, d'une pyramide qui aurait existé là où il ne reste plus qu'un petit jardin. Donc peut-être en baissons un peu le son, je peux finir justement. Bon, mais je laisse ça tourner pendant que je parle. Si effectivement le jardin donc est bien sûr encore un motif ou un thème ou une pratique qui est très présent dans le cinéma expérimental contemporain, d'une manière qui hérite de ce dont parlait Scott McDonald, on voit que peut-être des nouveautés, c'est à la fois cette notion de l'histoire, de l'historicité des jardins, que ce soit intégré dans des questions d'imaginaire postcolonial, que quand on parle de sexualité non hétéropatriarcale, on va dans des trucs de plus en plus, enfin on se permet d'aller plus loin que enfin qu'on pouvait faire dans les années 50 et les années 60, mais que aussi on a intégré cette idée, cette conscience de la mortalité et du catastrophe écologique à venir, qu'on intègre dans la matérialité même de nos pratiques cinématographiques et de nos rapports au jardin qu'on montre à l'écran. Merci beaucoup.
Non, mais nous, on s'est déjà beaucoup parlé pour préparer tout ça, donc c'est peut-être plutôt le moment si vous avez une question ou une remarque. Ouais.
Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question parce que vous avez beaucoup parlé de cinéma pellicule. Et c'est vrai que le cinéma expérimental est un bon lieu pour interroger l'écologie. Mmh. Surtout quand on sait que le cinéma est une industrie qui pollue énormément. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des ouvertures, enfin des références filmiques ou d'articles qui interrogent un peu quelque chose d'un peu autoréflexif sur comment est-ce que le cinéma pollue, comment est-ce qu'on peut repenser l'industrie, et surtout aujourd'hui, à l'aube des IA, qui sont extrêmement polluantes. Je ne sais plus c'était quoi le bilan que j'avais vu, mais... Enfin, on est en train de réfléchir à rouvrir des centrales nucléaires pour les IA. Donc comment est-ce que le cinéma numérique expérimental peut se faire une place dans toutes ces réflexions?
Bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est, cette question de l'écologie des moyens ou comment faire du cinéma expérimental ou non expérimental par ailleurs, qui soit le moins polluant, qui a le moins d'impact sur l'environnement. Il y a un florilège de textes de plus en plus qui sortent, ce genre de choses, ça, qui s'intègrent par ailleurs à ce domaine grandissant de l'éco-critique, etc. On pourrait parler de, un des bouquins peut-être le plus qui parlait de ça le plus en premier, pas nécessairement pour le cinéma expérimental, c'était un film qui s'appelle The Cinematic Footprint de Nadia Bozak, mais il y a aussi, les derniers travaux, les derniers articles de Teresa Castro parlent de ça pas mal aussi, dans un article qui était dans donc ce livre que j'avais coédité qui s'appelait Éco-critique. Là, il y a toute la question de, la différence entre pellicule et numérique, c'est une grande question. Après, de toute façon, l'industrie cinématographique a toujours été polluante. Les fabrications de pellicules, la fabrication des films, le développement, etc. Il y a pas mal d'articles et d'études qui montrent à quel point c'était une catastrophe écologique, Kodak surtout. La question des cinéastes artisanaux qui continuent à travailler avec la pellicule et qui cherchent à trouver des moyens de rendre ça le moins polluant possible, le moins désastreux possible ou catastrophique possible pour l'environnement. Je vous invite à aller voir justement dans ces labos. Ils travaillent sur des chimies non polluantes. Il y a même des gens qui sont en train d'essayer de trouver... Je pense que ça va être compliqué, mais trouver de créer des pellicules biodégradables, par exemple, ce genre de choses. Donc, il y a plein de questions sur cette écologie des moyens cinématographiques. C'est comme il y a toujours cette question de, en fait, la manière la plus écologique de faire du cinéma, ce serait de ne pas faire du cinéma de toute façon. Donc à partir de là, comment on réfléchit à ça? Il faut trouver des moyens. Et après pour le numérique, l'IA peut-être t'aurais plus à dire que moi, mais c'est sûr que c'est pas moins polluant en tout cas, ça c'est sûr et certain.
Non, ça l'est même beaucoup plus. En fait, à chaque fois que vous vous amusez avec ChatGPT, c'est colossal, en fait, l'empreinte écologique de l'IA. Mais juste, j'avais envie de rebondir peut-être par rapport aux phytographies de Karel Dwing, parce que c'est typiquement le travail de Karel Dwing. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de développer manuellement ses films, comme le font un certain nombre d'autres cinéastes qui ont été montrés là... ce matin, mais c'est vraiment une tentative d'aller repenser la chimie même du cinéma en essayant d'inventer des techniques artisanales et non polluantes. Donc, c'est-à-dire, puisque tous les bains d'émulsion dans lesquels on développe la pellicule sont extrêmement polluants, comment est-ce qu'on peut repenser cette chimie-là avec... Alors lui, du coup, il a... En fait, la recette, si ça vous intéresse, est sur son site. Vous pouvez faire des films phytographiques en allant sur son site internet où il vous donne toute la recette. C'est extrêmement facile. Enfin, facile. Vous obtiendrez des résultats aléatoires parce que c'est pas du tout stable. Et vous voyez d'ailleurs qu'une des difficultés qu'on a d'ailleurs même quand on développe manuellement des films, le plus difficile, c'est la couleur. Et en fait, on voit qu'il cherche à obtenir de l'image en couleur, mais qu'en fait, il obtient plutôt... des tons un peu sépia, hein, il obtient quelque chose d'assez dans les teintes brunes, quoi. Mais il a du mal à obtenir des couleurs, et que en fait ce qu'il cherche c'est ça. Mais voilà, donc il y a toutes ces tentatives qui sont aussi liées peut-être à la fois à une conscience écologique chez ces cinéastes, mais aussi à la situation économique du cinéma argentique, c'est-à-dire que toute l'industrie du cinéma argentique s'est effondrée et que il existe encore des laboratoires Kodak qui produisent de la pellicule, mais on ne sait pas pour combien de temps encore. Et par exemple, tous les laboratoires industriels de développement du film ont fermé autour de Paris, si bien que l'Abominable dont on parlait tout à l'heure s'installe sur le site des anciens laboratoires Éclair à Épinay-sur-Seine cette année.
Merci. Et j'ai juste deux petites questions. La première concerne... Elles sont courtes. La première concerne la musique, parce qu'on a entendu dans deux films, dans le film de Doink, Photographie, dans le dernier. Et il est assez avant-gardiste, si juste il y a l'information sur ça. Et le deuxième, c'est est-ce que les artistes présentés aujourd'hui, ils communiquent entre eux? Voilà,
c'est tout. Vous avez souvent parlé de communauté. Ouais. Juste pour rajouter un peu à la petite question,
mais vraiment, c'est vraiment un prolongement, donc vraiment, nous ne dépassons pas. Déjà, merci de nous avoir vraiment permis de voir, ne serait-ce que par bribes, cette seconde programmation. Je voulais savoir, parce qu'il y a quand même la question de l'ancrage par rapport au territoire. Aya, dans sa communication, a bien distingué entre le lieu, en fait, fictif et puis le lieu de tournage. Donc, je voulais savoir aussi, pour prolonger la question d'Anna, si ces artistes, est-ce qu'ils étaient attachés à un territoire de création? Est-ce que ces jardins sont dans la ville, comme bon, tu l'as explicité pour le cas de Beyrouth, ou est-ce qu'ils sont plus à la campagne? Enfin, une sorte de cartographie de la création, en lien peut-être avec aussi le terme, non pas de secte, mais de communauté que tu as employé.
Déjà, j'avoue, j'aurais pas grand chose à dire sur la musique dans les deux films, à part que dans le film de Colectivo Los Ingravidos, c'est un film assez étonnant à voir. Il dure 8 minutes et c'est constamment comme ça, avec une musique jazz un peu intense, plus voilà. Et donc il y a quelque chose de vouloir nous tabasser d'une certaine manière, je pense, avec
ça. De nous tabasser, du coup, il y aura que ça dans le sens. Pour la question de la communauté, oui, effectivement, c'est des cinéastes qui, à différents endroits, se communiquent entre eux, ne serait-ce que par ce communauté, effectivement, des laboratoires autogérés, donc dont a fait partie, Carl Dowing, Kelly Egan. Maintenant, c'est qui les films?
Frédéric Menon,
carrément. Donc Colectivo, un petit peu moins, faisant pas. Les Colectivo font un peu moins de ce réseau, mais bon, on a déjà fait des choses où ils sont communiqués avec Harry Loewing, ça je sais par exemple. Donc c'est à la fois une petite communauté, le comité du cinéma expérimental de toute façon, puis c'est cette communauté des réseaux des Film Lab. Enfin, si vous allez en ligne, ils ont un site qui s'appelle Film Lab où il y a des labos un peu partout. Puis pour répondre à la question plus qui prolongeait donc cette question, oui, il y a cette question de d'ancrage de ces films dans les milieux et d'implantation et d'immanence de ces jardins, de ces lieux dans lesquels ils filment. C'est-à-dire que encore une fois, Carrel utilise que les plantes qui se retrouve autour des endroits qu'il est en train de faire son film. Donc en ce moment, il habite en Angleterre parce qu'il est prof à Oxford, et donc les derniers films ont été des plantes trouvées autour de chez lui, mais aussi à chaque fois qu'il fait un workshop parce qu'il veut absolument que son truc de photographie se répande, que tout le monde puisse l'utiliser. Donc il fait des workshops un peu à droite à gauche, et à chaque fois ça commence par un moment de cueillage des jardins.
Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à faire ce qu'on me demande de faire. C'était des bribes, donc pour savoir si c'était représentatif, c'est-à-dire qu'on a effectivement une forme de cueillette, mais rapprochée. Et tu as beaucoup insisté sur le fait aussi du changement des habitudes perceptives. Et c'est vrai que le rapprochement près du sol est important. Mais ce qui nous a manqué, ou en tout cas ce qui motive mon questionnement, c'est quid du territoire.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, est-ce que le territoire est dans le hors-champ? Comment est-ce que cette question, à la fois dans le film et dans le processus de création du film, l'ancrage au territoire, voilà, est-ce que c'est une non-question? Est-ce que c'est une abstraction? Voilà, pour dire les choses.
Oui, oui. Non, absolument. Je pense que c'est une question, absolument. C'est une question qui n'est pas nécessairement représentée à l'écran. C'est-à-dire que, enfin bon, surtout quand c'est plus, enfin, abstrait, c'est peut-être pas le bon terme, mais quand les films sont caméra, bon, on voit pas des territoires. Après, quand c'est présenté, il va toujours parler d'où vient ces, enfin, même parfois quand il sait quelles sont ces plantes et d'où viennent ces plantes et où est-ce qu'il les a accueillies. Tout comme Kelly Egan, dès la présentation quand on regarde, enfin, comment elle présente le film en quelques lignes, elle dit très directement que les plantes dont elle a trouvé viennent, qu'on voit dans le film, viennent du jardin de ses parents en dehors de... Voilà. Et après, effectivement, donc le territoire en termes d'espace périurbain, c'est un peu moins sûr et encore... Justement, ces espaces sont souvent finalement périurbains, c'est-à-dire que ces labos sont souvent dans les banlieues un peu en dehors. Donc, les espaces où on fait ces ateliers ou qu'on travaille ces films finissent par un peu même par juste par sorte de contexte politique quoi ou social ou le fait que enfin si on veut faire des films où il n'y a pas d'argent etc ben on va se retrouver dans ces espaces là et que du coup la réflexion sur les territoires part de ces contextes là donc on se retrouve souvent avec ces cinéastes dans des espaces plus ou moins périurbains, ou en tout cas dans des espaces où on a le droit de filmer aussi, où on a le droit de cueillir des plantes, ce genre de choses, etc. Et c'est effectivement pas si rural que ça, finalement. Alors que toute cette botanique du cinéma expérimental ne se retrouve pas si souvent dans de la ruralité pure, quoi.